7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle mode avec notre partenaire, le magazine Brune. Bonjour Marie-Jeanne Serbin-Thomas.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous. Vous arrivez de Brazzaville, en direct quasiment. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Brune et on va évoquer avec vous l'actualité de la création sur le continent africain et surtout un gros plan sur les accessoires, c'est-à-dire tout sauf les vêtements, les sacs, les chaussures, les bijoux, les chapeaux, les coques de téléphone, pourquoi pas. Partout dans le monde, depuis quelques années, les accessoires sont devenus les vedettes du vestiaire féminin et masculin, alors que la consommation de vêtements a tendance à s'essouffler. Par exemple, les dépenses pour une paire de baskets sont largement plus importantes que l'addition jean plus t-shirt. Je pense que vous ne me démentirez pas, Marie-Jeanne.
Oui, bien sûr. Le prêt-à-porter, par exemple, a perdu des points, plus de moins 2,5% par exemple en 2018. Donc on sent un essoufflement quand même du prêt-à-porter, mais les accessoires vont très bien.
Et quant à vous alors, les voisines et les voisins, évidemment, racontez-nous comment vous exprimez votre personnalité à travers les accessoires. Partagez vos photos aussi sur nos réseaux sociaux. Le WhatsApp et le numéro de téléphone fixe, c'est le même numéro, très simple, 33 1 84 22 71 71. Je vous présente nos invités avec vous, Marie-Jeanne Serbin-Thomas, Rodrigue Vaudounou. Bonjour Rodrigue.
Bonjour.
Créateur de la marque de chaussures Goya.
Tout à fait.
En un mot, Goya.
Alors Goya Paris, c'est une marque de souliers hommes-femmes et bientôt enfants. Une marque qui a maintenant quasiment 3 ans. Nous sommes basés à Paris, dans le 15e. Et l'idée, c'est de faire du beau soulier.
C'est ça, et du soulier, pas de la chaussure. J'ai bien noté, on fera attention.
Avec un S majuscule.
Nkenda Runavot, bonjour.
Bonjour Emmanuel,
vous
bonjour
créez
à tous.
Des bijoux Nkenda Style ou Nkenda Style,
Nkenda
je ne sais
style.
Pas.
Peu importe, les deux se disent.
Bijoux ethniques, vous dites souvent, vous.
Hein. Oui, c'est ça.
Ouais.
C'est ça.
C'est un mot que certains refusent d'ailleurs, bijoux ethniques.
Bah, alors pour bijoux ethnique, oui, parce que les matières premières, j'importe mes matières premières d'Afrique. Donc,
approchez-vous du micro, Nkenda. Merci, merci.
Oui, ethnique, parce que les matières viennent d'Afrique et c'est des matières ethniques. Pour moi, les matières ethniques, c'est un peu comme j'utilise dans mes bijoux, dans mes créations, le bois d'ébène, des kauris, des perles de verre que j'importe du Ghana.
Comme donc, la parure que vous avez d'ailleurs.
Voilà, exactement.
Pour ceux qui nous voient en vidéo. On sera aussi en ligne à Dakar avec Cécile Ndiaye qui a cofondé la marque de maroquinerie Studio Voudé, donc des sacs originaux qui mélangent du cuir et du wax.
Allez, appelez-nous. Aussi des bijoux.
Exactement maintenant. Voilà. Oui. 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous les voisins et les voisines. Didine Adouala nous dit qu'elle ne sort jamais sans ses lunettes de soleil. Ça ne vous étonnera pas, Rodrigue Vaudounou, un ex-passionné de lunettes.
Alors non, et passionné, et surtout opticien.
À l'origine. Lila à Toronto nous dit « Les foulards donnent de la classe ». Binti nous dit « Moi, ça dépend. Si je vais au boulot, c'est-à-dire en reportage, j'attache mon foulard à l'africaine, une jolie montre pour faire classe et le sac en bandoulière. Josie ne se sent pas femme sans son sac à main, son rouge et un bon parfum. » C'est vrai aussi que le parfum fait partie des accessoires, plus ou moins, Marie-Jeanne.
Si vous voulez, on différencie quand même la cosméto de l'accessoire. Ce ne sont pas les mêmes points de vente. Hein. Maintenant, il y a des magasins, si vous voulez, des grosses boutiques qui vendent aussi bien du vêtement, qui font du tout, de la maroquinerie, du parfum. Mais traditionnellement, ces produits sont séparés. Ce n'est pas la même fabrication.
Eladj, pour lui, c'est la casquette. Si je sors sans elle, nous dit Eladj, je rentre le soir avec des maux de tête. Oui, ça protège de la chaleur. Et Brice est à Yaoundé au Cameroun. Il nous dit un bon chapeau de marque donne une chaleur à mon paysage et fait dire à beaucoup que je respire financièrement, même si le chômage règne dans mes poches. Brice, vous savez écrire, on dirait du
sacré
rap.
Sacré Brice.
Allez, on veut d'autres messages comme ça, Brice. Écrivez-nous, appelez-nous. Un message d'un voisin nigérien aussi, posté sur WhatsApp.
Les voisines, les voisins, c'est votre voisin Kuncha Fondou de Niamey. Par rapport aux accessoires dont vous avez parlé, Nous, quand on est des Sahéliens, je me vais ajouter mon turban qui, pour moi, détermine ma situation géographique et qui, pour moi, est important parce que tu portes le turban pour te protéger contre le soleil, contre la poussière, contre beaucoup de choses. Et ce même turban, tu peux l'utiliser pour te couvrir en cas de déplacement où tu n'as pas eu un logement, quelque part où tu as froid. Et aussi, ici, on sait bien que nous utilisons aussi même notre turban pour arrêter des gens, c'est-à-dire qu'on peut attacher un voleur ou un prébandier, tout, on peut les attacher avec la partie du turban. Donc voilà l'essentiel, pour nous le turban est un tout en Afrique, et tout précisément au Niger, qui est une zone désertique par rapport au Montré et le reste aussi. Pour nous c'est que des bling-bling. Mais pour nous ici, le turban nous détermine. Merci bien.
Le turban nous détermine, donc ça fait sac de couchage et menottes de police, hein, si j'ai bien compris. Rodrigue Vaudounou, Nkenda Runavot et Marie-Jeanne Serbin-Thomas, est-ce que vous comprenez aujourd'hui d'où vient cet engouement pour les accessoires, Marie-Jeanne Serbin-Thomas?
Oui, alors ce n'est pas nouveau, parce que quand on regarde un petit peu l'histoire de la mode à travers les âges, l'accessoire a toujours existé, que ce soit un petit sac pour autant le plus reculé pour mettre par exemple une arme, c'était plus utilitaire, ou un éventail. L'accessoire a toujours été là comme un instrument qui accompagnait le vêtement, qui signait aussi la classe sociale de quelqu'un. Et aujourd'hui, un vêtement coûte quand même assez cher, un vêtement de qualité coûte quand même assez cher. Et quand on a un coup de cœur, il y a deux problèmes qui se posent. La taille et la disponibilité. Alors qu'un sac, en fait, il n'y a pas de problème de taille, sauf si on veut un XXL. Il n'y a pas de problème de disponibilité. Et surtout, il y a tout ce marketing qui a lancé les hit bags, qui rend les sacs très addictifs.
Donc ça, c'est l'industrie du luxe, hein, qui a cherché aussi de nouveaux marchés, non?
Alors, c'est l'industrie du luxe qui a essayé de trouver, effectivement, des nouvelles sources, hein, de recettes, puisque depuis quelques années, quand même, il y a un essoufflement de la mode en tant que telle, du prêt-à-porter. Vous avez des très grandes enseignes qui sont en liquidation judiciaire en France, en Angleterre aussi. Donc, la mode est devenue quelque chose d'assez banal, en quelque part. Donc, il faut trouver, finalement, des zones, des points comme ça, où l'on peut encore rendre le consommateur captif, qu'on lui donne des nouveaux désirs. Donc, et l'accessoire participe complètement à ça, puisque les derniers chiffres donnent, par exemple pour certaines marques, leur chiffre d'affaires est composé à plus de 40% par les accessoires, alors que ce sont des marques qui ont été connues surtout pour leurs vêtements.
Et c'est vrai aussi que, par exemple, des lunettes de soleil d'une grande marque, c'est s'offrir une marque pour un prix relativement modique par rapport au prix des vêtements de cette même marque aussi.
Tout à fait. Mmh. Alors que ce soit les lunettes, et vous avez aussi les boucles d'oreilles, vous avez les petits sacs, vous avez les portefeuilles.
Les casquettes, comme disait Brice. Voilà, donner l'impression qu'on respire financièrement.
En fait, c'est pour aussi appartenir à un clan, parce qu'à partir du moment où, par exemple, on a une marque qui est griffée et qu'on porte, ne serait-ce qu'un petit porte-monnaie ou une petite casquette, même si c'est cher, mais c'est beaucoup moins cher que la robe ou le produit traditionnel issu de cette marque. Donc, quand on porte, par exemple, une griffe logo avec un logo, on se dit, tiens, on appartient à ce clan de personnes qui peut s'offrir ces marques.
Ouais, vous qui êtes passionné de chaussures, de bijoux, Rodrigue Vaudounou, Nkenda Runavot, est-ce que vous avez l'impression aussi que l'offre s'est développée plus simple aussi peut-être que de faire des vêtements?
Tout à fait. L'offre est beaucoup plus simple sur l'accessoire, parce que comme le disait ma consoeur Marie-Jeanne, l'accessoire coûte moins cher. On peut s'offrir une marque à un prix très correct. Ce même accessoire va durer dans le temps. Un vêtement, pas forcément. Soit parce qu'il sera dépassé de mode, ou soit parce
l'usure
que...
L'usure aussi, tout à fait. Pour les chaussures.
Soit parce qu'il sera usé, exactement. Alors que la chaussure, déjà, généralement, la chaussure, on ne la porte pas tous les jours. On va la porter que quelques fois dans la semaine, voire par mois. Donc, effectivement, le soulier, en tout cas pour moi, pour ma part, est un accessoire beaucoup plus demandé.
Alors racontez-nous comment vous en êtes venu à la chaussure, vous qui étiez opticien au départ.
Exactement. J'ai eu plusieurs vies. Alors moi, je suis un autodidacte. J'ai toujours aimé les souliers depuis petit, de par ma mère. Maman, si tu m'écoutes, merci. Voilà. En fait, si vous voulez, c'est, comme je le disais, de par ma mère, quelque chose que j'ai toujours apprécié parce que quand j'étais petit, elle déambulait devant nous, mes frères et moi, avec ses beaux souliers, et nous faisait part et nous montrait le beau cuir et la qualité des chaussures. Et c'est comme ça que j'ai apprécié.
Vous avez vraiment été initié. Donc,
et j'ai été initié par maman. Voilà.
Ouais. Et alors ensuite, la chaussure aujourd'hui, quand même, c'est assez gonflé comme choix parce que d'abord, c'est difficile le processus de fabrication. Mmh. Et puis, il y a le règne de la basket en face de vous.
Alors, effectivement, il y a le règne de la basket. Il faut savoir que Goya fait aussi de la basket, mais de la basket habillée. On ne fait pas du running, on fait de la basket habillée, chacun son domaine. Nous, on habille en chausses. Les gens qui aiment le beau, voilà.
Donc de la basket habillée, ça veut dire en cuir ?
En cuir, oui.
Ouais. Mais sinon, c'est quand même... Le cœur de votre métier, c'est pas ça ?
Non, c'est la chaussure, c'est le soulier.
Le soulier. Alors, est-ce que vous pouvez nous les décrire, ces souliers Goya ? Beaucoup pour hommes, d'ailleurs, à l'origine.
Alors, j'ai envie de vous dire chic, élégant, confortable.
Vous pouvez nous dire ce que vous portez, là, au pied, parce que...
Alors là, je porte la collection Goya ethnique, voilà. C'est un mélange de cuir et de raffia. Voilà.
Donc c'est un mocassin.
Un mocassin.
Cuir blanc sur les bords.
Cuir blanc sur les bords.
Tressé foncé sur le milieu.
C'est ça.
Des petits glands blancs.
C'est ça.
Donc c'est un mélange d'élégance italienne et africaine.
Exactement. C'est la conjugaison des deux, justement. L'Europe et l'Afrique.
Vous ne connaissiez rien, enfin hormis l'initiation de votre maman, vous ne connaissiez rien à la chaussure. Vous avez débarqué dans des ateliers en Italie, tout seul avec une voiture de location pour trouver des fabricants.
Exactement.
Comment vous avez été reçu, vous qui n'y étiez pas d'une famille de maroquiniers ?
Alors parfois, on me recevait un petit peu de haut. Et le plus souvent, on m'accueillait les bras ouverts, on m'expliquait, on me donnait plein d'infos, etc. On m'a beaucoup accompagné quand même.
Et ensuite ?
Alors ensuite, après mes passages en voiture de location dans ces usines, donc en Espagne d'abord, à Saragosse où j'ai commencé, et en Italie, j'ai fini par faire des salons internationaux de la chaussure en Italie, sur lequel j'ai trouvé plein de fabricants, de fournisseurs, de gens qui pourraient m'aider dans ce sens-là. Et c'est comme ça qu'après, j'ai monté la firme Goya.
Oui. Rodrigue Vaudounou, très honnêtement, combien de paires de chaussures vous avez dans votre placard ?
Alors, au risque de vous étonner, mesdames, j'ai très exactement 283 paires dans mon armoire.
D'accord.
Donc autant vous dire que j'ai une pièce entière remplie de chaussures.
Et pas de chaussures forcément de votre marque. Hein.
Non, malheureusement. Ouais. J'ai eu une vie avant, mais là, les chaussures Goya sont en passe de devenir...
La chaussure, en tout cas, a toujours fait partie de votre vie.
Tout à fait.
Alors, quel regard vous portez sur les accessoires, vous, justement, en tant qu'homme, parce que Marie-Jeanne parlait beaucoup des femmes. C'est vrai que l'accessoire, on l'imagine d'abord féminin.
Alors, il faut savoir que nous, les hommes, nous sommes beaucoup plus coquets qu'avant. Vous avez beaucoup d'hommes maintenant qui sont très dandys, très apprêtés, ou pas forcément, juste qui veulent avoir une tenue décente et bien habillé. Maintenant, nous, le regard qu'on a, les hommes, c'est que nous ne pouvons plus nous chausser avec une seule paire tout le mois. Voilà, beaucoup d'hommes le savent. Maintenant, il est inadmissible d'avoir une seule paire dans sa garde-robe.
Ouais. Alors, vous m'avez dit hors antenne, moi, je suis en train de rééduquer les jeunes pour qu'ils apprennent à mettre des chaussures.
C'est vrai.
J'ai entendu, pas que des baskets.
C'est vrai. Parce que maintenant, la jeune génération...
C'est pas un peu perdu d'avance, non ?
Non, c'est pas perdu. Ils écoutent. Quand ils viennent en boutique à Paris, ils sont très à l'écoute et justement posent des questions à savoir comment on peut porter tel type de chaussures avec tel costume ou avec tel smoking. Mmh. Et alors là, on les éduque.
Vous nous appelez les voisins et les voisines. On parle des accessoires de mode aujourd'hui. Donc tout ce qui n'est pas le vêtement, les sacs, les chaussures, les bijoux, bien évidemment. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
C'est un village mondial. Donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins. Et entre nous, là, entre les voisins. Hein ? 7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
On accueille une auditrice, une voisine de Lomé au Togo. Bonjour Binta.
Bonjour Emmanuel.
Binta, vous êtes une fan de bijoux?
Oui.
Ouais.
Et de watch.
C'est-à-dire?
J'adore porter du watch en accessoire, en foulard.
Ah, d'accord, ouais.
Et j'adore porter aussi des pendentifs, des colliers, mais pas de ras de cou, des boucles d'oreilles qui pendent.
Mmh.
Surtout avec un foulard, ça fait une vraie africaine.
Ouais. Et c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que vous portez, Binta, comme accessoire?
Aujourd'hui, j'ai juste des boucles d'oreilles parce que je suis au bureau.
Mmh.
Je suis un peu sage. J'ai mis des boucles d'oreilles, je me suis tressée.
D'accord.
Et j'ai un pantalon taille haute et une chemise en soie.
Et quand vous dites des boucles d'oreilles parce que je suis sage, ça veut dire quoi quand vous vous lâchez alors?
Quand je me lâche, ça peut, les boucles d'oreilles peuvent arriver jusqu'aux épaules. Hein.
Ah ouais, carrément.
Et donc.
Ouais.
Carrément.
Ouais. Et elles sont en quoi alors? Ce sont des perles?
Des fois en perles, des fois en pagne, en papille.
Mmh. Papille.
En fait, pampille. Oui, en papille.
Ah oui, des petites gouttes de verre un peu, hein, c'est ça?
Oui, en fait, ce sont des pendentifs, en
ouais.
fait, des pendentifs faciles.
Des pendentifs,
ouais.
Oui.
Ah oui.
J'ai une créatrice qui me le fait, à Lomé.
Ouais.
Elle le fait très bien.
Et donc, vous avez un code pour porter tous ces accessoires?
Oui, j'ai un code. Quand je mets un collier, un sautoir, je mets des boucles d'oreilles qui ne pendent pas.
Oui.
Et quand je mets des boucles d'oreilles qui pendent, je ne mets pas de sautoir.
D'accord.
Mais je n'aime pas trop les colliers ras-le-cou.
D'accord, donc l'un exclut l'autre, hein, d'une certaine manière.
Oui.
D'accord ou pas avec ce code, Nkedarunavot?
Si, d'accord. Parce que, excusez-moi, oui, donc, comme ça dépend, parce que si les boucles d'oreilles sont assez visibles et assez comme pendantes, donc en mettant le collier et le boucle d'oreille, ça fait beaucoup trop d'informations, on n'arrive pas à distinguer.
Ouais, trop d'informations, c'est comme pour la pub, hein. Un seul message à la fois. Donc vous avez une parure d'ailleurs, Kenda,
voilà,
aujourd'hui, et rien dans les oreilles, sur
non,
les oreilles.
Non, rien, parce que la parure, elle est assez imposante, visible, donc en mettant l'ensemble, pour moi, hein, ça fait beaucoup.
Eh ben c'est le conseil qu'il faut retenir en tout cas. Merci beaucoup Binta de nous avoir appelé. Bien sûr les voisins et les voisines, vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Comment accessoiriser une tenue aussi, les bijoux, les chaussures, les sacs? Nkedarunavot, est-ce qu'il y a une femme qui vous a inspiré pour créer des bijoux?
Oui, bien sûr, je suis un peu comme Rodrigue. Oui, ma maman.
Ah oui.
Oui, donc ma maman l'a toujours... En fait, petite, on a voyagé pas mal, dans pas mal de pays d'Afrique. Et c'est vrai que toute petite, je la voyais porter des parures, des bijoux, mais que ça soit aussi... dans sa génération, c'était beaucoup plus or et argent. Mais elle, dans tous les pays qu'on faisait, le Sénégal, Mali, elle mettait quand même... dans les années 80, elle a commencé vraiment à aimer aussi les bijoux ethniques. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir 15-16 ans, c'est vrai qu'elle m'en offrait. Et j'ai commencé à les porter. C'est vraiment là où j'ai vraiment eu la passion, vraiment. Et puis... j'ai vraiment apprécié de porter les bijoux parce ouais. que c'était assez unique. En plus, c'était l'originalité. On n'en trouvait pas partout. Donc, surtout dans ces années 80, fin 80, 90 en France, l'ethnique était moins prononcée que maintenant.
Alors, on le disait, les accessoires sont en train de supplanter les vêtements. Vous êtes vraiment l'exemple, Nkenda. Vous portez une chemise blanche en coton, toute simple, hein, rien à signaler, si on peut dire. Et vous êtes habillée par votre collier.
Exactement.
C'est le cas de le dire.
Mais oui, parce que comme quoi qu'un bijou finit vraiment, pour moi, un bijou termine la tenue. C'est vraiment très important.
Ouais.
Alors, ce n'est plus tellement vrai. Aujourd'hui, l'accessoire peut être plus important que la tenue. Donc, on ne peut pas dire que l'accessoire termine la tenue. Quand il y a certaines marques, par exemple, qui lancent des chaussures avec des talons extraordinaires, en fait, tout le regard est fixé sur cette chaussure. On oublie la petite robe noire, on oublie un certain look pour... pour marquer sa différence dans un monde assez homogénéisé, qu'est-ce qu'on fait? On prend des petites touches comme ça, et ce sont ces petites touches qui font la mode. Hein. Et cette mode qui est très internationale, qui est très mondialisée, quand on parle, par exemple, moi je déteste le terme ethnique, parce que l'Afrique n'est pas une ethnie, quand on parle de bijoux ethniques, ça n'a aucune valeur ni scientifique, ni culturelle, ni esthétique. Non, l'Afrique n'est pas une ethnie, donc on ne peut pas dire un bijou ethnique. On peut dire, vous êtes une créatrice peut-être africaine qui fait des bijoux, qui prend des produits en Afrique pour les faire, mais un bijou ethnique, pourquoi est-ce qu'une ethnie serait seulement en Afrique? Si vous travaillez avec l'Asie, est-ce que vous direz un bijou ethnique? Donc je pense que c'est pas un terme qui est très...
C'est l'Asie pour moi.
Non, mais ce n'est pas un terme. Je pense que pour même un auditeur africain, dire un bijou ethnique, ça se réfère à quoi géographiquement? Donc, mais pour revenir à l'accessoire. Aujourd'hui, les accessoires ont de plus en plus d'importance, même au niveau financier, parce que à un moment, il y a eu l'impérialisme de la petite robe noire, et il fallait bien marquer la différence entre ma robe noire, mon identité, ce que je veux montrer de moi, et le fait que je sois
clair,
complètement...
C'est clair, l'argent qu'on va mettre dans un très beau collier, on ne va pas le mettre dans les vêtements, donc dans ces cas-là...
Voilà.
Et puis, investissement minimum sur le vêtement.
Voilà, investissement minimum, et puis surtout, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que moi j'étais au Congo, à une manifestation, il y avait des blogueuses qui avaient plus de 500 000 followers. En fait, parfois, elles étaient en jean, mais il y avait la petite touche, l'accessoire qui faisait qu'elles étaient complètement différentes et qu'on pouvait dire, tiens, elle a un look, elle a ceci, elle a ceci.
Exact. Rodrigue, si je peux me permettre, pour ma part, la tenue commence par l'accessoire et par la chaussure Goya.
Quand vous habillez le matin, vous commencez vraiment par le bas,
vraiment.
Rodrigue?
Je commence d'abord par ma chaussure Goya.
Je le redis encore pour moi. Évidemment, heureusement que nos avis sont différents. Moi, c'est vraiment, bon, ça peut être, évidemment, il y a tellement de choses, ça peut être la chaussure, le bijou, comme on dit, mais c'est vrai que pour moi, le bijou est vraiment important.
Allez,
et un truc que je voulais rajouter, excusez-moi, je suis d'accord avec Marie-Jeanne quand on dit, en fait, moi, quand je dis ethnique, c'est vrai que vous avez donné un exemple de la Chine, pour moi, bon, bref, j'ai un peu de mal avec, certains accessoires, oui, bien sûr. Mm-hmm. Mais quand je dis ethnique, pour nous, c'est vraiment parce que moi, j'utilise vraiment des matières que je trouve en Afrique. Donc c'est vrai que...
On va parler des processus de fabrication aussi, bien sûr. Hein. Comment vous fabriquez les uns et les autres vos accessoires? 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone et c'est le WhatsApp aussi sur lequel vous pouvez poster des messages, intervenir en direct, ça serait l'idéal, pour nous parler de la façon dont vous exprimez votre personnalité à travers les accessoires, la mode version accessoire, comment s'habiller avec tout sauf des vêtements. Allez, téléphonez-nous, on sera en ligne aussi bientôt avec une créatrice de sacs à Dakar.
Mama Africa, down to Tanzania, all the way to Australia, all over America. Yeah, me charge, only girls them bad, big girls like God, big ass like Nigga.
Yeah. Owo Naija, Owo Oyi, Owo Saudi, Owo Wena, Owo Kenya, Matiti Mata, Koye Gbosa, Kula Gbosa, Kusha Kula.
Yeah, me, Brainy, and T-Willis.
Oh, yeah, wait.
Yagi Yemialad chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI. Alors, on a Marie-Jeanne Serbin-Thomas et Nkenda Arunavott qui parlent, non pas chiffon, mais accessoires aujourd'hui, qui comparent leur parure, magnifique toutes les deux d'ailleurs. On est également avec Rodrigue Vaudounou qui fabrique des chaussures. Et bien sûr, vous nous appelez pour nous dire quelle est la place des accessoires de mode dans votre vestiaire masculin, féminin. 33 1 84 22 71 71, s'habiller avec tout sauf des vêtements à l'heure où s'essouffle d'ailleurs le marché du prêt-à-porter et du vêtement en général, comme le disait Marie-Jeanne Serbin-Thomas. 33 1 84 22 71 71, on accueille un voisin qui nous appelle de Cotonou. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
C'est Régis.
Ben c'est Régis.
C'est-à-dire ?
Ben Régis Facia, Top Chrono, hein. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
D'accord. Entreprise de livraison de courrier, on vous connaissait bien sur votre business, mais on ne savait pas que vous étiez un homme coquet donc, Régis ?
Ben écoutez, je suis devenu coquet à cause de Goya, parce que en fait, une fois j'étais allé faire une mission à Hong Kong, et puis j'avais trouvé quelques deux collègues qui étaient toujours très très bien chaussés. Et je leur demandais, mais c'est quoi ces chaussures-là? Ça vient d'où? Comment ça se passe ici à Hong Kong? Et ils m'ont dit, ben non, c'est un Africain qui le faisait. Et puis évidemment, j'ai sous-estimé le concept parce que effectivement, quand on parle d'Afrique par rapport à certaines activités, on pense que c'est toujours de bas de gamme. Et j'ai un ami qui habite à Hong Kong, Serge Écoué, pour ne pas le nommer, qui me dit, écoute Régis, ce serait bien que tu essayes ces chaussures-là. Et c'est comme ça que mon fils, je lui en ai parlé, il m'a dit « Baba, tu es complètement dépassé, tu n'as pas reconnu encore Goya. Nous, on fait des concours, des chaussures Goya. » Et d'abord, on ne dit pas chaussures, on dit souliers Goya. Et c'est comme que j'ai découvert le concept.
C'est quand même incroyable qu'un entrepreneur béninois comme vous, Régis Facia, vous avez découvert cette marque Goya, créée par un entrepreneur franco-béninois, parce que, Rodrigue, vos parents sont béninois. Et vous avez découvert ça Hong Kong.
À Hong Kong, c'est ça le paradoxe. Et maintenant, ce que je voudrais dire à M. Vaudounou, c'est que mes enfants et moi à la maison, nous faisons le concours de celui qui aura le plus de Goya. Donc il faudra peut-être qu'il envisage ce qu'on appelle les tarifs regroupement familial.
Donc ça veut dire que les enfants, vous les avez convertis, ils sont passés des baskets au Goya?
C'est eux qui m'ont converti.
Ah, c'est le contraire.
Parce que quand j'ai eu l'information à Hong Kong, j'en ai parlé à mon fils qui est un passionné de chaussures. Il me dit, papa, de quoi tu me parles là? Mais ça fait longtemps qu'on connaît Goya. Et il m'a montré toute une collection. Mais lui, c'est des baskets, évidemment. Alors que moi, c'est des chaussures beaucoup plus raffinées.
D'accord, c'est des baskets Goya.
Voilà. Et c'est vrai que, pas plus tard que la semaine dernière, il y a mon fils qui est venu en vacances. C'est celui qui m'a ramené comme cadeau. un porte-monnaie Goya, très fin, très propre, très beau, très classe, bien emballé, bien packagé.
Et de la maroquinerie aussi.
D'accord.
Et j'avoue qu'il y a trois jours, j'ai reçu encore un accessoire Goya. Et lorsque je vois.
Vous avez cité à peu près déjà 12 fois Goya. Alors, est-ce qu'il y a un accord avec Rodrigue, là, en fait?
Je n'ai jamais vu dans ma vie.
On ne se connaît pas.
Ah, vous ne connaissez pas.
On se connaît pas. Bonjour, Régis.
Comment allez-vous? Écoutez, je vous promets que quand je serai à Paris la prochaine fois, j'irai vous voir parce qu'on n'a jamais l'occasion de se voir. Je suis très fier de ce que vous faites. Je suis un chef d'entreprise comme vous. C'est toujours très difficile au début. Mais lorsque vous prenez vos marques, eh bien, vous ne pouvez qu'avancer. Et vraiment, je tiens à vous dire que par contre, le fait de ne pas connaître Goya en Afrique, plutôt à Hong Kong, c'est pas normal.
Ouais.
Il faut déployer votre communication un peu en Afrique.
Je commence à remédier à ça, Régis.
D'autant plus que les prix que vos tarifs sont des tarifs en dessous des grandes marques de luxe.
Oui.
On va redonner les tarifs d'une paire de mocassins classiques pour hommes. Combien ça coûte?
Je peux vous le dire tout de suite.
Allez-y, comme ça, on est sûr qu'il ne va pas mentir. Allez-y, Régis.
Une paire de baskets Goya, c'est autour de 200€, 195€.
Tout à fait.
Vrai ou faux?
Tout à fait. C'est vrai.
Donc on est quand même dans les tarifs des grandes marques de sport.
Oui, mais pas de luxe.
Non, d'accord.
En
mais
tout cas,
des
moi,
grandes marques de sport.
C'est vraiment le concept, Emmanuel. Et au-delà même du concept, pour moi, c'est aussi de l'emploi qui est créé, c'est de la richesse qui est créée. Et lorsqu'on voit tous ces jeunes-là déployer autant d'énergie dans la créativité, dans la création d'entreprises, surtout dans un domaine qui est extrêmement difficile, parce que lorsqu'on parle de chaussures, il y a déjà des fondamentaux, il y a plein de marques de chaussures qui existent déjà.
Sauf que Rodrigue, vous ne faites pas, pour le moment, vous ne faites pas fabriquer vos chaussures sur le continent africain.
Alors sur le continent africain, non. Par contre, la matière première, oui. Le tissage, j'étais à Dakar il y a à peu près 10 jours de ça, d'où j'ai ramené justement du tissage de là-bas. Et j'utilise maintenant beaucoup ce genre de choses sur mes souliers.
Qui va servir donc dans le décor du centre du soulier. Et sinon, le soulier
lui-même,
il est fait en Italie, c'est ça ?
Il est fait en Italie après. Ouais. Alors, évidemment, Je suis déjà en train de commencer à fabriquer en Afrique, au Sénégal d'ailleurs, où j'ai commencé une petite production. On a déjà fait des prototypes qui sont fabuleux. Et donc à terme, l'idée ce serait d'avoir...
Peut-être le début d'une histoire de souliers made in Africa. Merci à Régis Facia de nous avoir téléphoné tout à fait à l'impromptu. Vraiment, je le précise, j'espère que vous me croyez, les voisins et les voisines. Et bien sûr, vous continuez de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons une créatrice, Cécile Ndiaye, qui est à Dakar. Bonjour Cécile Ndiaye.
Bonjour à tous, bonjour les 7 milliards de voisins.
Vous avez cofondé la marque de maroquinerie Studio Voudé, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui, Studio Voudé.
C'est une marque sénégalaise fabriquée au Sénégal, de sacs à l'origine ?
Oui, de sacs et de bijoux. En fait, c'est une maison de maroquinerie. Je préfère parler de maison de maroquinerie, déjà parce que c'est au départ une structure familiale et aussi parce qu'on s'intéresse à tous les savoir-faire du cuir qui sont très diversifiés en Afrique de l'Ouest. On collecte ces savoir-faire et on les... Et bon, il y a des savoir-faire bien sûr, mais il y a aussi des pratiques socio-culturelles autour du cuir et on fabrique des bijoux parce qu'il y a aussi ici une production de talismans.
Votre mari qui était dans le cuir à l'origine, Cécile ?
Oui, lui, il est bottier au départ. Ouais. Donc nous avons commencé par de la chaussure, puis nous avons développé des lignes de sacs et des lignes de bijoux. Au fur et à mesure des collectes de techniques différentes, toute la sous-région, enfin, du Sénégal, de Mauritanie.
Alors vous
de
vous
Mali,
êtes fait connaître
Guinée.
Pour vos sacs, inspirés d'ailleurs un peu de la création italienne, mais vraiment version africaine, avec du wax qui est savamment tissé, entrelacé avec du cuir, et ça donne des sacs qui ont une vraie personnalité. Dakar est une des capitales de la mode. Comment sont perçus les accessoires ?
Oui, voilà, Dakar est une capitale de la mode, il faut vraiment le dire.
Vous n'allez pas vous faire que des amis quand même, parce qu'il y a du monde qui nous écoute à Abidjan, je vous le dis tout de suite.
Bien sûr, non, mais il y a de la place pour tout le monde. Mais moi, je suis très fière et en même temps très inspirée par ce qui se passe dans la rue ici. Tout le monde est très coquet, que ce soit les hommes, les femmes, tout le monde est très sophistiqué. Au-delà de la coquetterie, il s'agit de style sophistiqué, donc réfléchi, pensé, agencé. Et l'accessoire n'est surtout pas secondaire. L'accessoire, c'est vraiment... ce qui va affirmer un style, ce qui va ponctuer une phrase, je vais dire. Et ça donne tout le sens d'une personnalité.
Ouais. Vous avez un profil, vous venez des Beaux-Arts, hein, Cécile Ndiaye.
Oui.
Pour vous, c'est très lié la mode, la création artistique ?
Oui, mais moi, au-delà de ça, même l'action politique, je dirais même. Parce qu'en fait, quand nous avons créé notre marque, ce qui était important pour nous, c'était le Made in Africa. On était convaincus qu'on pouvait... On constatait qu'il y avait des techniques qui n'existaient nulle part ailleurs, des savoir-faire très sophistiqués, et on regrettait du fait que ça ne puisse pas s'exporter, montrer, créer de l'identité, et créer de l'identité forte. Et le Made in Africa était un engagement de départ. C'était notre engagement de départ.
Très clairement, Cécile Ndiaye, vous avez eu un déclic quand vous avez fait fabriquer un jour une paire de chaussures par un maroquinier qui fait des souliers au Sénégal.
Oui. Dans mes premiers voyages à Dakar, j'avais eu besoin d'une paire de chaussures et donc un ami m'avait amené dans une famille de cordonniers. Nous avions travaillé. Enfin, j'avais dessiné la paire de chaussures que je souhaitais faire. Ça fait à peu près 20 ans maintenant. J'avais dessiné ma paire de chaussures et il l'avait réalisé. On avait discuté, bu du thé, enfin passé la journée ensemble. Ils avaient réalisé complètement toute la chaussure avec un savoir-faire impeccable. Et au moment de me la donner, ils ont pris une étiquette Made in Italy et ils l'ont collée sur le fond de la chaussure. Et ça, c'était le marketing il y a 20 ans.
C'était il y a 20 ans. Est-ce que ça serait
et
plus
ça,
possible
c'était un déclic, vraiment.
Mais ça serait plus possible aujourd'hui. Un cordonnier aurait conscience quand même de son talent. Il ne mettrait pas Made in Italie.
Bien évidemment, et bien heureusement, tout a changé. Les mentalités ont changé, les rapports à la consommation ont changé. Et là, actuellement, on est fiers de porter du Made in Sénégal. C'est vraiment un étendard, c'est vraiment une revendication. Ce côté politique, je le trouve très intéressant, en fait.
Oui, alors justement, il faut qu'on parle des modes de fabrication, parce que Nkenda Runavot, vous aussi, c'est quelque chose qui vous importe d'aller chercher chez des artisans dans différents pays du continent africain. africains, des matériaux, même s'ils sont assemblés ensuite là où vous vivez, c'est-à-dire en France.
Exactement, oui. Mais oui, c'est important parce que l'Afrique, on a tellement des matières nobles. C'est vrai que c'est bien justement parce que même ces artisans, même que ce soit au Ghana où j'achète mes perles de verre et tout ça, on les fait travailler. Donc c'est vrai que c'est valorisant pour nous parce qu'on a vraiment plein de belles choses.
Il faut savoir que les perles, il y a beaucoup de perles aussi en plastique qui viennent de Chine et que même parfois c'est difficile. Je parle sous le contrôle de notre experte Marie-Jeanne Servin-Thomas, mais parfois c'est même difficile de les différencier, non ?
Oui, bien sûr, mais ce n'est pas très grave parce qu'en fait, même si elles viennent de Chine, ce qui compte c'est la créativité après. Par exemple, ce qu'on appelle les multifiories, que sont des perles qui existaient dans la Venise du XIVe siècle, qui sont arrivées avec l'esclavage, par exemple sur la Gold Coast, c'est-à-dire le Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, en fait, ont été complètement intégrées dans l'art, hein, de la parure, et si bien que il y a des colliers qu'on dit africains, mais dont l'origine, en fait, des perles est étrangère et venait de Venise. Donc aujourd'hui, de toute façon, le monde est un vaste chantier où il y a beaucoup d'interactions. Je crois que la créativité, moi je porte un collier, bon, il y a du bois, il y a des perles, je ne sais pas si elles sont en plastique, machin, mais le résultat final, c'est fait par une béninoise qui a du talent, et il y a plusieurs, j'arrive de l'aéroport.
C'est sa création.
Voilà, c'est sa création, et il y a des gens à l'aéroport qui m'ont dit, oh là là, c'est super, où est-ce que vous l'avez vu? Voilà. Et bon, j'étais contente d'avoir mon collier. Voilà. Mais pour revenir à Cécile Ndiaye, je voulais le rappeler, c'est que Cécile est également une artiste, et elle a exposé à Bilbao, à la Fondation Guggenheim. Il y avait une très grosse exposition il y a à peu près 4 ans sur l'Afrique. Et elle avait justement ses cuirs tressés. Elle avait fait des parures tressées. C'est-à-dire, imaginez un peu un corset tressé.
C'est ça, tressé. Des corps nus avec des parures tressées.
Voilà, et c'était vraiment magnifique. Et fait au Sénégal. Ouais. Fait dans un petit village pas très loin de Dakar.
Cécile Ndiaye, est-ce qu'il y a vraiment un avenir à grande échelle pour de la maroquinerie au Sénégal ?
À grande échelle, on a besoin de chemin à faire. On a beaucoup de chemin à faire, en fait. Nous, pour créer notre unité de production, nous sommes une dizaine d'artisans, designers, tous rassemblés, il nous a fallu un certain nombre d'années. Parce que chaque fois que nous créons, pour ce faire, parce qu'il n'y a pas d'école de formation, ni en design, ni en artisanat. Et pour ce faire, nous avons dû former l'équipe d'artisans avec qui nous travaillons. Certes, il y a des artisans qui ont appris le métier de par leurs parents, de par leur filiation, qui travaillent avec nous, mais de par leur façon d'apprendre, ils ne remettent pas toujours en question, parce que c'est un patrimoine transmis par leur père, donc ils ne remettent pas en question leur savoir-faire. Et nous, on est vraiment dans la création, dans l'innovation, je crois qu'il faut affiner cette formation. Il faut vraiment travailler au niveau de la formation et c'est regrettable qu'il n'y ait pas d'école en ce sens.
Ouais, parce que la demande est là aussi, la clientèle est là, votre clientèle. Vous avez une vraie clientèle sénégalaise, africaine,
tout à fait,
également des internationaux. Ouais.
Tout à fait. Et à l'international, on a mis un point d'honneur à se développer sur le continent. C'est-à-dire qu'on a un réseau de distributeurs qui sont surtout le continent africain. Et je pense que on n'est pas encore sur de la grande échelle. Il faut vraiment...
Tout dépend pas. Ce qu'on attend grande échelle, ça peut aussi rester un artisanat qui se développe, mais relativement confidentiel sur un secteur haut de gamme. Rodrigue Vaudoune.
Tout à fait. Ce que je veux dire, moi, par là, notre collègue a raison, Madame Ndiaye, l'idée, encore une fois, c'est de former les gens sur place. De ne pas tout délocaliser, de former sur place, d'apporter cette excellence qui nous vient d'ailleurs au pays, parce qu'il y a des gens au pays qui sont très forts. Je l'ai vu de par mon voyage au Sénégal il n'y a pas très longtemps. Je l'ai vu aussi au Bénin.
À qui vous pensez? Où ça?
Alors, à Dakar, j'y suis allé, comme je vous disais, il y a 10 jours. J'ai vu un artisan qui s'appelle Maraz. Je pense à lui, parce qu'il m'a franchement bluffé. Ça a été une belle expérience pour moi. Il n'a pas toutes les machines, mais avec le peu qu'il a, il m'a fait des miracles. D'ailleurs, j'ai ramené dans mes valises quelques sandales.
Eh bien, vous mettez le point, en tout cas, le doigt sur des points essentiels, hein, le manque de formation, une grande créativité, le manque aussi de machines pour fabriquer. On parle des accessoires aujourd'hui avec nos invités, Marie-Jeanne Servin-Thoman, Kendar Unavot, Rodrigue Vaudounou, et bien sûr, vous pouvez nous téléphoner pour nous parler aussi de la façon dont vous vous appropriez ces accessoires au 33 1 84 22 71 71. I've been feeling kind of cooped up, I'm trying to get some fresh air. Hey, well, you got the roof out, you know it never rains here. Hey, you ain't got a flash when you're taking your picture. You ain't got to draw no extra retention. Paparazzi wanna shoot ya, shoot ya. Down for less out here. I've been in my bag anyway, trying to throw a bag in the safe. You can turn your in the bass. Baby, my little one, some baby names. Down for less out here. Do what I gotta do, bruh, do, bruh. Get up in my rear view mirror. I can't be.
Probably think of trolling, like, but showing out for the cameras.
Right.
I'm doing fish bowling.
Side.
100,000 on the passenger. Yeah, I'm Kendrick Lamar. Respect me from afar. I was made in this image. You call me a god. Everybody in attendance. I'm about to perform. Everybody get offended by the shit I got on. Like, can you buy that 900 horse? Can you drop that a G5? Can you fly that? I need 10 so I can look at the snakes and poses.
I need 10
cause Bob is non-disclosure.
I need 10
so I can live with a peace of mind without taking a peace of mind and peace be still and not do fine. So fix it, ticket. You pull me over and might see one of your.
Chez 7 milliards de voisins aujourd'hui sur RFI en direct et surtout des accessoires made in Africa pour une partie d'entre eux, Rodrigue Vaudounou, Kendar Unavot et Marie-Jeanne Servin-Thoman. Et nous sommes aussi en ligne avec Cécile Ndiaye, créatrice de maroquinerie de sacs à Dakar. Peut-être un conseil pour les voisines et les voisins qui nous écoutent. Comment on peut donner de la personnalité à une tenue, un conseil un peu pratique, d'autant plus quand on est sur le continent africain, on a des tissus qui sont déjà, des textiles qui sont très présents, avec des couleurs très présentes. Comment on laisse de la place pour les accessoires finalement, Marie-Jeanne Servin-Thoman?
Alors en fait, il faut faire de la peinture, c'est-à-dire dans ces cas-là, si vous avez par exemple un vêtement qui est très chargé en couleurs, mieux vaut avoir des accessoires monochromes, c'est-à-dire d'une seule couleur. Pas forcément du noir, ça peut être du rouge, ça peut être du jaune, ça peut être du vert, dans une couleur qui rappelle un petit peu une pointe du textile, mais il ne faut pas le total look bagne de la tête aux pieds. Je trouve que c'est pas de très bon goût. Et puis il faut se lâcher aussi, parfois porter des grandes boucles d'oreilles, même si elles sont trop grandes. mais ce que je veux dire, c'est cette liberté qu'il y a aussi. Aujourd'hui, la coiffure aussi est devenue un accessoire. Je me suis rendu compte en étant à Brazza qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui tous les jours changent de tête, changent de perruque, changent de couleur. Elles passent du blond au... Et ça aussi, c'est un accessoire qu'elles accessoirisent. Donc moi, je dis l'audace. Et permet d'avoir
l'audace,
confiance.
Mais pas le total look.
Non,
Cécile Ndiaye, juste un mot de conseil. Il nous reste vraiment très très peu de temps.
Pardon, oui.
Pour choisir un sac, tout simplement, puisqu'il n'y a pas de question de taille, on ne l'essaye pas réellement. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre, selon vous, Cécile Ndiaye?
Par rapport au sac, je pense qu'il y a une petite spécificité, c'est quand même que c'est un objet utilitaire et à la fois esthétique. Donc ça, on l'utilise souvent pour finir un look, pour se donner une identité forte. Mais après, il faut pas privilégier que le côté esthétique, il y a aussi la fonctionnalité. Ouais. Parfois, on voit des sacs trop remplis ou trop maigrelés alors qu'ils ont un grand volume. Je crois qu'il faut réussir à trouver un équilibre.
Ça, vous avez raison sur le volume des sacs. Effectivement.
Qui correspond à l'usage qu'on a, enfin, à notre programme de la journée, finalement.
Il fallait y penser. Nkenda Runavod sur les bijoux, un mot.
Un mot sur les bijoux. Oui, justement, comme disait Marie-Jeanne, personnellement, tout en sur les tenues, c'est bien d'avoir un accessoire. Après, on peut avoir une tenue chargée, mais quelquefois, il y a des femmes qui ne sont pas colliées. Ben, ça peut être un bracelet, ça peut être une bague, ça peut être des grandes boucles d'oreilles. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter, quoi. Ça donne une petite touche.
Par rapport à la silhouette?
Alors, pareil, par rapport à la silhouette, selon la morphologie aussi, parce qu'il y a des collets que selon la morphologie qu'on peut porter ou pas. Mais bon, voilà, quand on est grande, on peut porter quasiment tout, des sautoirs et tout, des boucles d'oreilles. Et quand on est plus petite, c'est vraiment sautoir.
Ah, d'accord.
Ou alors complètement des bracelets.
Les silhouettes petites, d'accord. Rodrigue Vaudounou.
Oui.
Les chaussures.
Alors pour les chaussures, nous on vous dit tout en magasin. Il faut passer nous voir à la boutique.
Non mais d'accord. Mais...
en fait, effectivement, la chaussure, moi j'aime la porter de manière très sobre. Donc sobre sur la tenue vestimentaire. Et comme on dit, je mets l'accent sur le soulier avec de la couleur et la forme.
Le risque qu'on ne regarde que vos chaussures, parfois?
C'est un peu fait exprès, oui.
Oui, c'est fait exprès, ouais. C'est ça, d'accord.
C'est ce qu'on veut.
J'axe tout sur la chaussure. On regarde vos pieds.
Exactement.
Emmanuel, hors antenne, Rodrigue disait qu'il passait ses dimanches à cirer ses chaussures.
Ouais.
Ça, c'est une activité, effectivement, très masculine, paraît-il.
Activité masculine, mais... Oui. Qui m'a été appris par maman.
Oui.
Peut-être un message pour les jeunes qui ne veulent plus cirer de chaussures. C'est pour ça qu'ils achètent des baskets. Hein, je vous
signale. Non, les amis, cirez vos chaussures parce que les filles regardent beaucoup les pieds, attention. Chaussures cirées veut dire beaucoup de choses.
Avec quoi on cire ses chaussures?
Eh bien, avec des produits d'entretien. Produits d'entretien.
Beurre de karité, ça marche aussi.
Crème de cirage, beurre de karité, ça marche.
Ça marche.
Vous avez des produits en grande surface. Mmh. Vous avez, pour ne pas la citer, la marque Saphir Médaille d'Or, qui sont très bons produits. Mmh. Donc, pour glacer vos chaussures, pour hydrater vos chaussures, etc.
Un jour, des chaussures complètement made in Africa pour vous, Rodrigue Vaudounou?
Oui. Oui, et j'aimerais bien avoir cette unité de production ou au Bénin, ou à Dakar, ou ailleurs en Afrique. Ce serait le top.
Voilà. Eh ben merci en tout cas à vous tous d'être venus pour nous parler des accessoires dans la mode. Merci à vous Marie-Jeanne Serbin-Thomas. Le magazine Brune, le dernier, est en kiosque. Et vous misez sur le dernier Brune?
Alors, c'est Sonia Roland qui est la nouvelle égérie d'une grande marque. Ça a fait beaucoup de bruit, beaucoup de buzz. Et qui est en tournage en Martinique. Et puis, les femmes aussi dans le BTP, la mode, des fleurs, enfin plein de choses comme d'habitude.
Et merci à vous Rodrigue Vaudounou, merci créateur de la marque de chaussures parce que vous l'avez déjà beaucoup dit.
Goya.
Nkenda Runavod, donc ce sont les bijoux Nkenda. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azerwal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Bien sûr, vous nous réécoutez sur l'appli, sur le podcast. Et demain, 7 milliards de voisins, c'est le rendez-vous des tchatcheuses. Comme chaque mois, je recevrai trois femmes journalistes de trois continents pour commenter l'actualité de leur choix. Merci à vous tous de votre fidélité. À demain les voisins et les voisines. La